Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Ça y est, c'est le début du SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales. Je suis ravi de vous accueillir en direct de la Porte de Versailles et on commence cette grande journée avec Tristan Breillet. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Vous êtes conseiller régional en Bretagne. Comment ça va en Bretagne en ce moment ?
Bah ça va bien.
Ouais, l'année s'est bien passée depuis le dernier salon ?
L'année s'est très bien passée depuis le dernier salon. Voilà. Donc moi j'habite à Brest et, ouais. Et beaucoup de dynamisme sur les territoires, beaucoup de projets en cours. On a des gros sujets sur les mobilités, sur le logement.
Ouais.
Et donc voilà, moi je m'attache à être le plus présent possible au quotidien auprès des maires justement pour les accompagner et faire en sorte que les projets qu'ils veulent mener dans leur territoire puissent aller à leur terme dans un contexte budgétaire contraint et toujours dans cette relation de proximité qui est hyper importante parce que c'est vrai que les maires sont aussi les premiers remparts et en première ligne. Vis-à-vis des administrés qui sont parfois un petit peu exigeants et dans l'immédiateté, alors que les politiques publiques et l'intérêt général, c'est aussi le temps long et ça, il faut savoir l'accepter.
C'est clair. Tristan, on vit une crise du logement qui est intense, qui dure. Alors, on commence, d'après les professionnels, à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Très bien. C'est quoi votre lecture de la situation ?
Alors, ma lecture de la situation, si je prends le cas breton, c'est qu'on a une vraie tension foncière, notamment sur les territoires littoraux, ce qui pose notamment dans un premier temps le sujet de la location courte durée, le modèle un peu Airbnb.
Donc on voit avec Anaïs Glomer qui était en première ligne sur cette question-là.
Effectivement, députée du Finistère, députée de Quimper, là, qui est très engagée sur ce sujet. Donc nous, on est très content de l'émergence législative là, de cette loi qui va permettre justement de donner aux maires un petit peu plus de pouvoir pour connaître mieux déjà l'existence d'Airbnb sur les territoires ou de ce modèle de la location courte durée.
Et en même temps, sachant que la Bretagne et la région du Finistère est très impactée par ces locations.
Très impactée, notamment le sud Finistère. On a une région qui est de plus en plus attractive, qui va attirer au bas mot 400 000 personnes d'ici 2040-2050.
Et pour quelle raison ?
Avec une attractivité touristique, avec une région qui globalement va bien, où il fait bon vivre.
Et puis dans les cartes qu'on nous présente sur les températures en France suite au réchauffement climatique, c'est vrai qu'on a un petit îlot qui résiste tant bien que mal à l'envahisseur et qui se situe en Bretagne où les températures seront un peu plus clémentes qu'ailleurs.
Tout à fait, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes âgées, notamment avec pas mal de pouvoir d'achat, se détournent un peu de la grande région sud pour la Bretagne, justement de par ce climat plus favorable, ce qui pose un souci de vieillissement de la population et donc aussi une forme d'inflation immobilière, parce qu'avec des gens qui ont plus de pouvoir d'achat, ça pose notamment, moi j'ai des amis là, primo accédants qui aimeraient pouvoir accéder justement à un logement et qui ont des difficultés, donc c'est tous ces sujets là qu'il faut réussir à résoudre, et en même temps il faut produire du logement. Il faut produire du logement dans un contexte de ZAN, dans un contexte où il faut réduire notre empreinte carbone, donc avec pas mal de contraintes. Donc il faut trouver des solutions innovantes. Et je crois que d'ailleurs, là, les perspectives de fin du dispositif Pinel mettent un coup d'arrêt aussi à la possibilité des particuliers de pouvoir investir et préparer leur avenir via la pierre. Hein. On sait que les Français sont très attachés à la pierre. Donc il y a aussi des dispositifs sûrement relais que l'on pourrait trouver.
Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme alternative au Pinel, sachant que c'était quand même un coup de pouce non négligeable à l'investissement immobilier. Et effectivement, au 31 décembre, c'est fini.
Alors, bon là, 31 décembre, on verra s'il sera prolongé de quelques mois.
On parlait au moins jusqu'au 1er mars.
Voilà, c'est ça. C'est histoire de sécuriser un peu les dossiers en cours. On nous parle du dispositif Baladur aussi au plan gouvernemental. Moi, je regarde avec pas mal d'intention. Comment on pourrait solliciter l'épargne en tout cas la capacité d'investissement des particuliers. On a un dispositif qui existe depuis 2014 qui est le LLI mais qui est fléché sur les institutionnels. Une des solutions pourrait être de l'élargir justement aux investisseurs particuliers pour permettre de desserrer les taux et justement de permettre aux particuliers d'avoir un dispositif qui leur permettrait d'acquérir un bien, de le louer à loyer modéré, donc de permettre à des jeunes, par exemple en Bretagne, d'accéder à du logement, et tout en préparant la suite et en permettant aussi d'avoir un avantage fiscal, parce que c'est donnant-donnant aussi.
Exactement.
Et d'ailleurs, là-dessus, petite remarque, c'est vrai que on a une vision de Bercy qui est, à mon sens, un petit peu erronée, parce que notamment sur le Pinel, Bercy considère que c'est un dispositif en fait qui coûte de l'argent à l'État, alors que par ses effets induits, la production du logement, le fait qu'il y ait aussi un secteur de la construction qui se voit dynamique, c'est des rentrées d'argent pour l'État. Donc en réalité, l'État est bénéficiaire de ce type de dispositif, et c'est assez dommage d'avoir une lecture strictement on va dire en négatif qu'en positif, et c'est ce qui crée aussi parfois une forme de difficulté à pouvoir pousser ce type de dispositif.
C'est parce que l'État est sous tension et du coup il ne voit que la contrainte budgétaire, il ne voit pas les effets à long terme d'un tel dispositif.
Tout à fait.
Tristan, il y a un autre sujet qu'on voulait aborder tous les deux aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler dans notre vie, puisque ça y est, l'intelligence artificielle s'immisce dans notre vie. Très bien. Dans quelle mesure elle touche ou elle concerne les collectivités ?
Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée des IA génératives, notamment là, on fête les 2 ans de l'arrivée de ChatGPT dans le grand public. C'est
déjà
une révolution technologique, une des plus grandes révolutions technologiques que l'humanité ait connue. Peut le comparer, certains le comparent à l'imprimerie, ou un impact aussi important que l'arrivée d'Internet et des téléphones mobiles en même temps. En réalité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un nouveau rapport à la machine, une nouvelle manière d'interagir avec la machine et un nouveau rapport à la connaissance. Et donc pour les collectivités, ça va être un enjeu majeur, parce que derrière tout ça, derrière l'IA, en fait, ce ne sont que les données. Et la manière de les articuler, la manière de les structurer, la manière
de
les récolter et des données de qualité. Et donc, pour les organisations, qu'elles soient publiques ou privées demain, l'enjeu il est autour de la donnée. Et l'enjeu il va être aussi à savoir comment les collectivités vont faire en sorte de bien structurer leurs données. Et en réalité, les collectivités territoriales, toutes les collectivités territoriales, sont assises sur des mines d'or de données.
Ouais.
Des mines d'or de données quand on décline une politique de l'eau, une politique des transports, une politique de l'urbanisme, une politique du quotidien et des services publics en général auprès des...
C'est de la donnée à moindre coût, en plus.
Et de la donnée à moindre coût et valorisable.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, pour piloter les politiques publiques, on a besoin de la donnée. Et c'est aussi un enjeu d'efficacité de l'action publique, parce que ce que nous promet l'arrivée des IA, c'est aussi des gains de productivité assez forts pour les organisations. Je vous prends un exemple au Japon. On a une commune qui s'appelle, une commune d'ailleurs, c'est plutôt une grande agglo qui s'appelle Yokosuka, qui a 4000 fonctionnaires. Ils ont décidé il y a quelques mois de mettre ChatGPT à leurs 4000 agents pour voir un petit peu comment les agents pouvaient s'en saisir. Ils ont adossé une équipe de recherche justement pour faire en sorte de voir un peu les impacts. Et les premiers résultats qui sortent, c'est que d'ici 2030, 98% de gains de productivité sur certaines tâches. Donc c'est-à-dire, pour faire simple, qu'un fonctionnaire qui mettait aujourd'hui 10 heures à faire une tâche, en 2030, il pourrait mettre 10 minutes. Donc vous voyez un petit peu l'impact que ça pourrait avoir. Et donc, les collectivités, il faut aussi qu'elles s'en saisissent. Et nous, d'ailleurs, à la région Bretagne,
comment ? Vous sentez un intérêt de la part des collectivités ?
Alors, il y a du volontarisme.
Okay.
Et de toute manière, il y aura
une nécessité.
C'est comme l'arrivée d'Internet. À un moment donné, il pouvait y avoir des réfractaires au début, mais en même temps, ça va tellement infuser dans notre société qu'il faudra s'y mettre. D'ailleurs, nous, on a poussé ça un petit peu à la région Bretagne pour faire en sorte qu'on ait une collectivité data-centrée.
Okay.
Notamment, moi, je suis très vigilant là-dessus concernant la mobilité, les politiques des transports. C'est se dire comment on fait en sorte d'avoir un service public régional
efficace
des données de mobilité,
ouais,
où on collecte la donnée, où on la structure, où elle nous aide pour piloter les politiques publiques de transport. Typiquement, je suis dans l'agglomération de Brest à 23h sur une ligne de bus où il y a 5 personnes dans le bus. Je le sais parce que du coup, grâce à la donnée que je récolte, je suis en capacité de le savoir. Et donc on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bus accordéon avec 90 places, ou est-ce qu'on pourrait pas...
Voilà.
Et donc cette nouvelle donne va nous questionner aussi sur la manière dont on va monter les politiques publiques et dont on va les calibrer aussi par rapport aux besoins.
C'est vrai que les possibilités sont incroyables, mais est-ce que ça poserait pas un... Je vois en vous écoutant, alors pas un problème, mais une question en tout cas qui est soulevée sur la confidentialité de la donnée, sur la sécurité de la donnée et sur le fait qu'elle soit infaillible.
C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur, d'autant que on voit aujourd'hui que l'administration Trump est assez offensive avec les dernières nominations sur les secrétaires d'État chargés du numérique. Mais nous, en Europe, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a été les premiers à réguler aussi.
Oui, c'est vrai.
L'IA Act entre en application. Elle va entrer c'est un texte qui a été adopté au printemps. Il va être adopté. Enfin, il va être on va dire remis en application de manière graduelle jusqu'à 2027, avec une première évaluation d'ici 2030. On est la première institution dans le monde à le faire. D'ailleurs, les Américains commençaient à nous copier un petit peu. On a souvent tendance à dire l'Amérique crée, les Chinois copient et les Européens réglementent. Bon, là, c'est un peu le cas, mais en même temps, on peut faire de l'influence par la norme aussi. Mais c'est vrai que c'est un enjeu extrêmement important. Et il y a des risques.
Le RGPD, on a influencé le monde avec le RGPD,
etc. Bon. C'est un vrai sujet, le sujet de la donnée. Je rajouterai d'ailleurs un autre sujet éminemment important, c'est celui de l'empreinte carbone et du sujet écologique. Oui. Il faut savoir aujourd'hui que des boîtes comme Amazon et Google ont annoncé faire construire des centrales nucléaires, des petites centrales nucléaires, pour alimenter en énergie leurs data centers. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les GAFA deviennent des énergéticiens, vont devenir des énergéticiens pour alimenter. Donc, on va avoir le sujet des matières premières et donc de toutes ces questions géostratégiques aussi. Donc, quand on tire le fil, c'est des sujets passionnants, mais il faut aussi qu'on soit conscient que l'IA, on ne pourra pas l'utiliser partout, tout le temps, à toutes les sauces, parce que c'est une empreinte écologique absolument énorme et qu'il va falloir faire des arbitrages pour utiliser l'IA où il le faut et de mettre du high-tech là où on en a besoin et d'enlever la tech là où on n'en a pas besoin et du coup aussi de se dire qu'en réalité, paradoxalement, cette révolution de l'IA, c'est une révolution technologique, mais ce sera peut-être aussi une révolution de l'interaction humaine, parce qu'on se concentrera pas sur la technologie quand on n'en aura pas besoin, elle le fera pour nous, et donc on se concentrera sur la relation humaine.
Oui, une révolution sociétale qui nous fera gagner en qualité de relation. Merci beaucoup Tristan pour cet échange et puis je vous souhaite un très bon salon SMCL.
Merci à vous.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.